l'idée est de continuer un peu la discussion. Sœur Marie-Pierre, vous disiez, c'est un colloque familial. La formule me va bien. C'est un peu comme si on se retrouvait maintenant à la fin d'une grande fête de famille autour de la table pour pouvoir partager encore de derniers souvenirs avec vous. Et vous aurez l'occasion de le faire aussi au micro. J'essaie de me placer pour pas que ça fasse trop de bruit. C'est pas évident. Je trouve que le son est pas terrible. Voilà. Alors, vous avez des verres d'eau. Parfois, on sait que Mgr Brincard proposait d'autres types de verres pour prendre un bon moment. Il aimait bien aussi ces moments conviviaux. Vous les avez pour beaucoup évoqués au cours de ces trois jours. J'aimerais qu'on essaye de voir ensemble, parce que vous avez tous évoqué une facette du Père Henri que l'on a tous connu à des moments différents, peut-être dans des situations aussi différentes. Pour reprendre une formule qui vaut ce qu'elle vaut, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup aujourd'hui d'écologie intégrale, mais je trouvais que Mgr Brincard a quelque chose peut-être de l'épiscopat intégral, comment toutes les choses étaient finalement assez unifiées dans sa manière d'être, la prière, le rapport à la foi, le rapport aux autres aussi, et puis évoquer certains de ces sujets et vous entendre. Vous tous, vous cinq, sur différents points. Alors, et notamment, l'un des premiers, c'était l'exigence qu'il avait envers lui, mais aussi envers les autres, et notamment cette capacité à repérer les forces et le charisme de chacun, des personnes qui pouvaient se présenter à lui. Alors, Père Bodingue, vous avez évoqué le bienheureux Alain de Solmignac, et sa devise, c'était « aussi bien que se peut, jamais rien, à demi ». Je trouve qu'il y a quelque chose qui ressemble beaucoup à l'exigence qu'avait Mgr Henri Brincard. Il savait nous inviter à aller beaucoup plus loin et à ne jamais se reposer sur ce qu'on était faire, mais non pas pour se faire plaisir, mais pour servir le Seigneur. Ça vous parle quand je vous dis ça?
Tout à fait. Il y avait chez Henri un excellent sens de la pédagogie et il s'intéressait, on l'a souligné, à tous et à chacun avec une grande bienveillance et une curiosité au bon sens du terme, une curiosité philosophique. C'est une maïeutique qu'il pratiquait de manière à nous aider à aller plus loin. Je prends un tout petit exemple. J'ai évoqué que à l'intérieur du groupe CASA, communauté d'accueil dans les sites artistiques, il aimait beaucoup tout ce qui était de l'art religieux et en particulier l'art cistercien. Et le groupe d'étudiants auquel j'appartenais était pris, lui, dans des descriptions de l'art cistercien sous le sens des volumes, des formes, etc., du travail de la pierre. Ça l'intéressait, mais il disait toujours « Mais pourquoi tout ça? Pourquoi ?» Et c'est lui qui nous faisait découvrir le sens spirituel caché de ces architectures, parce qu'il y a un sens spirituel très fort. Et il ne se laissait décontenancer par rien du tout. J'ajoute une anecdote. Un beau jour, on est à l'abbaye, moi je suis un jeune confrère, lui il n'est pas encore évêque, et il me dit un soir, j'ai demandé au père abbé, on pourrait aller voir le film Thérèse d'Alain Cavalier. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'était un film qui avait eu une originalité profonde dans la manière de traiter de la vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et alors, nous sommes partis pour le cinéma de Tournon, c'est là où il y a un cinéma le plus proche, et ça m'impressionnait beaucoup d'être avec lui, je ne dis pas tout seul dans le cinéma, mais seul confrère avec lui, à côté de lui, à guetter un peu toutes ses réactions, et quelquefois avec une certaine appréhension, parce que quand il avait des réactions fortes, ça se sentait, puis ça sortait. Et alors, vous savez que, évidemment, quand on est au cinéma, non seulement on voit le film, et c'était un très beau film dont il a dit à la fin, ils sont passés à côté d'un chef-d'œuvre, mais ils sont passés à côté. C'est-à-dire que ça ne l'avait pas satisfait totalement. Mais surtout, vous avez droit à toutes les publicités des autres films. Et là, je me suis senti très mal, parce que il y avait des images très légères, vous imaginez, et je me disais, il va se lever, il va dire arrêtez tout, et il me regarde et il me dit, tu trouves pas qu'on a fait des progrès dans la photographie?
De l'humour aussi qui était souvent présent. Perpetuo, vous l'avez vécu, hein, cette confiance, vous avez été son vicaire général pendant 21 ans, à ses côtés. Vous l'avez été un peu plus auprès d'autres, mais avec lui. Vous me racontiez notamment que quand il vous a confié cette tâche-là, il vous a quasiment rien dit. Il vous a dit, ben, en gros, voilà, vous allez devenir mon vicaire général. En lui posant la question, qu'est-ce que je dois faire ? Il vous a dit, ben, vous verrez bien.
C'est pas lui exactement. Les choses ne sont pas passées exactement comme ça. Je dois dire, pour commencer à répondre à cette question, que j'ai encore pas compris pourquoi il m'avait appelé.
C'est bien, c'est bon signe.
Ah ben, je sais pas, mais en tout cas, voilà. Alors, il se trouve que depuis 11 ans, j'étais, comme je l'exprimais, un peu hors jeu de la pastorale diocésaine. J'étais prêtre. Bon. Mais je travaillais depuis 11 ans, donc, dans le journal hebdomadaire du journal diocésain. Et donc, je faisais un travail de journaliste, enfin, lambda, hein. Dans le district de la Haute-Loire, hein, c'est pas, on joue pas en Coupe d'Europe ici, hein. Et bon, voilà. Donc, il m'avait un jour, il m'appelle après le conseil, et il me dit voilà, j'ai décidé de vous nommer vicaire général. Alors, je suis resté complètement éberlué, et il me dit ben. J'ai dit, mais ça consiste en quoi ? Il me dit, ben, vous allez voir le père Caro, qui était le vicaire général précédent et qui avait été administrateur pendant l'année de vacances avant son arrivée. Alors c'est facile, parce que le père Caro habitait juste en face de lui, dans ce qui est actuellement le rectorat de la cathédrale. Et donc je traverse et je vais voir le père Caro. Et le père Caro, comme toujours, avec son petit air malicieux, la pipe à la main, je dis, alors, voilà ce qui m'arrive, bien sûr, il le savait, hein. Et je dis, en quoi ça consiste ? Il a tiré 2-3 bouffées sur sa pipe, et il me dit, tu verras bien. C'est tout ce que j'ai eu comme formation.
Vous avez vu, je le disais, pendant 21 ans quand même. Donc vous avez vu ce que, alors, c'était pendant 21 ans. Et en fait, ça a été des années aussi de confiance. C'est-à-dire que...
Il ne s'épanchait pas sur notre relation. Hein. Plusieurs fois, il m'est arrivé de lui dire « Vous ne croyez pas que ça a assez duré ?» Vous pourriez trouver quelqu'un d'autre. Et il me répondait chaque fois, c'est moi qui décide. Et je pouvais simplement dire, j'ai compris depuis longtemps.
Père Barbarin, pour avoir discuté avec vous souvent de la question du charisme, et notamment de ces dons de Dieu qu'on évoquait tout à l'heure, des charismes, notamment des capacités que chacun peut apporter à l'Église. Vous avez été témoin, vous, justement, de sa capacité à repérer assez simplement et à demander aux gens de s'investir là où ils sont sans doute les meilleurs, les plus au service du Seigneur.
Moi, je n'ai pas tellement été collaborateur d'Henri. Hein.
Non, mais vous avez...
C'est-à-dire que j'ai été... Je l'ai connu donc avant sa consécration épiscopale, et puis après je l'ai connu comme un évêque. Donc comment il gouvernait, comment il parlait, comment il ceci, il cela, j'ai pas tellement d'habitude. Ce qui me touchait le plus, moi par exemple, quand on était à Lourdes, c'était d'aller prier à la grotte, comme les évêques font souvent quand ils sont là-bas. À peu près toujours, je voyais le dos d'Henri, qui était devant la Sainte Vierge, devant la grotte. Ça comptait beaucoup pour lui. Je le savais, bon voilà. Et j'avais l'impression, si vous voulez, d'avoir un bon frère aîné, quoi, qui veillait. Alors, il aimait bien Lyon, il venait souvent à Lyon. Et de temps en temps, il me disait ce qui lui paraissait essentiel, peut-être pour m'avertir, pour me dire, pour ceci, pour cela, etc. Et je savais que j'avais tout intérêt à l'écouter, quoi. Mais avec lui, il était à la fois présent et discret, si je puis dire. Je ne sais pas comment dire, mais...
Sœur Marie-Pia, vous, vous avez participé, on imagine, à de nombreux rendez-vous. Il était souvent sollicité. Est-ce qu'il évoquait justement parfois l'exigence qu'il avait envers certains, cette capacité à demander à aller toujours plus loin?
Oui, mais en fait, les gens étaient contents de servir un évêque. En fait, les gens étaient contents de lui rendre service, de pouvoir faire des choses pour lui. Et il savait donner à chacun cette occasion de se donner, pensait-il, à l'Église, pas à lui, parce que ce n'était pas tourné vers sa personne. Il se disait que les personnes qui l'aidaient servaient l'Église aussi. Et je trouve que cela était... Il stimulait le don de soi des personnes, et les personnes étaient heureuses d'avoir eu l'occasion de pouvoir se donner. Parfois, ça a pu être un peu trop, d'ailleurs, parce qu'il sollicitait beaucoup. Donc, peut-être c'était parfois un peu exagéré, mais de manière générale, les gens étaient contents de pouvoir aider l'Église, de pouvoir participer à son ministère, de l'aider, voyez, de le compléter, parce qu'il ne savait pas faire cuire un œuf seul, par exemple. Voyez. Donc, ne serait-ce qu'au niveau de mettre un œuf dans la poêle. Voyez. Eh bien, les gens étaient contents de l'entourer, de pouvoir compléter son ministère, et puis de bien d'autres manières. Là, voilà.
Moi, j'ai une anecdote qui montre aussi sa capacité à nous inviter à aller plus loin. J'ai commencé le journalisme ici il y a une vingtaine d'années. C'était Monseigneur Henri Brincard à l'époque, et la première interview, j'étais arrivé depuis 15 jours, on m'a dit qu'il faut aller faire une interview de Monseigneur Brincard début du mois d'août pour annoncer les fêtes mariales. Et puis il me reçoit gentiment, en se méfiant un peu quand même. Je ne suis pas sûr que les journalistes étaient le corps de métier qu'il préférait dans tous ceux qu'il pouvait rencontrer au quotidien. Mais bon, voilà. Donc il se méfie un petit peu. On fait l'interview. Moi, je suis très prudent. Je ne l'avais jamais encore rencontré. Donc je lui pose des questions plutôt faciles, on va dire. Il y répond gentiment. Et puis à la fin, il me dit « Bon, c'était bien, merci. Mais en revanche, la prochaine fois, posez-moi... » Alors, il était poli, donc il me dit « Mais en gros, en substance, ça veut dire « Posez-moi des vraies questions. » Aller me chercher un petit peu plus loin. Je trouvais ça assez intéressant. C'est vraiment de se dire, voilà, vous pouvez faire mieux. Arrêtez de trop être le pied sur la pédale. Et il l'a fait souvent. J'ai eu quelqu'un qui l'a bien connu aussi, c'est Monseigneur Emmanuel Gobillard, que Monseigneur Brincard a poussé aussi autour des Pléiades. Certains sans doute s'en souviennent ici, où des œuvres de théâtre, de danse ont été portées, et ça aurait pu être quelque chose de simple, mais quitte à le faire, il l'avait invité à le faire de la manière la plus exigeante possible, la plus, je ne vais pas dire spectaculaire, mais en tout cas la plus importante possible. On se souvient d'Angelin Prêche-Locache, on se souvient de très grands artistes qui sont venus au puits. C'était ça aussi Monseigneur Brincard, il me semble, dans Monseigneur Gobillard me disait, il était ambitieux. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle quand on parle de Monseigneur Brincard?
Ambitieux pour Dieu, parce que pas pour lui. Ambitieux pour l'Église, oui. Et puis je trouve là que qu'en faisant participer les gens, il les évangélisait aussi. Parce qu'il mettait dans le bain chrétien des gens qui n'y étaient pas, du coup, vous voyez, qui le trouvaient sympathique. Et c'est une manière d'évangéliser aussi, de dire aux gens qui sont utiles, vous voyez, de leur dire, vous pouvez me rendre service, vous pouvez vous donner. Et petit à petit, ça faisait rentrer la foi, l'espérance et la charité dans le cœur des personnes, en fait. Et c'était une manière d'évangéliser aussi. Et son ambition, elle était pour l'Église. En fait, il la voulait belle, très belle, et même moi, en tant que religieuse, il m'a beaucoup aidée à grandir dans la foi, dans l'espérance, à me tourner vers le Christ. Et on sentait qu'il ne souhaitait pas qu'on s'attache à sa personne, mais que tout son accompagnement était pour nous tourner vers le Christ. Et je crois que c'était la même chose pour les personnes qu'il côtoyait. Sa plus grande ambition était de leur faire aimer le Christ, la Vierge Marie, et de les tourner vers Dieu, ultimement. Dans ce sens-là, il était très ambitieux.
Moi, je pense à ces interventions à Lourdes. Donc, dans l'Assemblée des évêques à Lourdes, on est là tous en arc de cercle et on sait à peu près quels sont les styles d'intervention des uns et des autres. Mais il y avait grosso modo trois personnages marquants qui étaient le cardinal Billet, président de la conférence, le cardinal Lustiger, où on sentait que ça allait exploser, et c'était grandiose d'ailleurs quand même, il faut reconnaître, et Henri. Et quand Henri prenait la parole, alors tout le monde se redressait, et on savait que ça allait être long, il fallait faire très attention, et c'était une intervention circonstanciée, où il avait beaucoup de choses à dire, et là, on voyait que parce qu'il y a beaucoup de petites interventions dans une assemblée comme ça, pour telle ou telle autre chose, etc. Mais E3, c'était quand même des interventions qui... Toute l'Assemblée se ressaisissait, quoi. Et là, on savait qu'on allait avoir quelque chose, qu'il fallait écouter, approfondir, ruminer ensuite, des grandes interventions.
J'aimerais qu'on parle aussi de la prière qui était très présente avec lui. Là aussi, une anecdote. Il commençait quasiment chacune de ses interviews en disant « on va d'abord prier ». Alors, pas au micro, pas enregistré, mais il disait « on va prier ensemble ». Alors peut-être pour qu'on pose des questions un peu plus toniques, ou en tout cas que les choses se passent le mieux. J'ai une anecdote aussi avec un préfet en studio en face à la radio, où il y avait un dialogue entre Mgr Brincard et le préfet de l'époque qui était organisé. Et il a dit, avant de commencer, on va prier. Bon, vous imaginez le préfet dans un studio invité à prier par l'évêque, qui je crois n'a pas osé ne pas le faire. Alors, c'était pas enregistré, donc c'était tout à fait possible. Et maintenant, on peut en parler parce qu'il y a quasi prescription. Mais il confiait beaucoup tout ce qui se passait à la prière de manière assez simple. Moi, je l'ai expérimenté. J'imagine que vous aussi, très très souvent. Je sais pas qui veut en parler.
Je le revois quand il était présent à l'abbaye, il se rendait à l'église romane et dans la chapelle du Saint-Sacrement, et il y allait avec cette grande cape noire dans laquelle il s'enveloppait, et dans les poches il y avait des papiers, il y avait un stylo, etc. Et il écrivait, et ça me faisait penser au fait que c'était un peu à la manière de faire de Jean-Paul II. Jean-Paul II aussi écrivait toute une partie de ses réflexions devant le Saint-Sacrement. Et chez Henri, il y avait ça de très profond. Au fond, il ne faisait rien sans passer par là.
Il y en a d'autres qui...
Je vais dire juste un petit souvenir, je crois pas l'avoir évoqué hier, c'est qu'on est arrivé ensemble auprès du corps de Jean-Paul II. Il est mort en avril 2005, et c'était splendide de voir Henri s'approcher. On était déjà tous les deux tout seuls, on est restés, beaucoup de gens passaient autour, et on sentait toute la grande admiration qu'il avait eue pour Jean-Paul II, bien sûr, et puis la prière pour un frère, quoi. Maintenant qu'il arrive là-bas devant le Seigneur, donc nous on a le devoir de prier pour lui. Tout ça, pas beaucoup de mots, hein, un beau silence, mais un grand acte de foi, quoi. Pas simplement la prière qu'il faut faire ou la politesse spirituelle, si je puis dire, mais engagé, quoi, dans cette heure majeure pour lui. Il avait été notre pape pendant 25 ans et c'était vraiment le moment de prier pour lui. Ça m'avait touché.
Et j'aurais évoqué un autre point qui pour moi est aussi synonyme de Mgr Brincard, c'est le débat. Je crois que c'était quelqu'un qui aimait énormément débattre, même quand il était souvent pas d'accord, et surtout peut-être quand il était pas d'accord avec les gens qui étaient en face de lui. Moi, je l'ai vu souvent. On ignore aussi parfois. Il a monté, par exemple, il y a quelques années, des groupes de réflexion sur la bioéthique. Il en faisait pas publicité. Alors moi, je m'en souviens parce que mon père était médecin, qu'il y en avait parfois à la maison et qu'on entendait les discussions un peu monter. Au salon, quand nous on était invités à aller à l'étage pour pas assister au débat autour, évidemment, des questions de fin de vie, des questions d'avortement. C'est quelqu'un qui aimait, en tout cas, se confronter à l'opinion des autres de manière assez simple, finalement.
Lorsqu'il nous donnait des cours de métaphysique, il aimait beaucoup citer, je ne sais pas si c'est vrai, il paraît que les petits-enfants de la ville d'Athènes s'interpellent en montrant quelque chose, en disant « Ti esti, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ?» Et au travers de ça, il disait « mais interrogez-vous hein, », c'est-à-dire ne restez pas sur des choses convenues, dites et redites, etc., mais interrogez-vous fondamentalement, qu'est-ce que c'est ? Et après, mettez en œuvre ces réponses que vous recevez. Il était dans une démarche philosophique, mais qui ne coupait jamais de la démarche spirituelle.
Est-ce que d'autres ont assisté à des débats ou sa manière d'aborder des questions parfois un peu sensibles, ne pas les contourner? J'imagine Jean-Claude Petiot, en 21 ans de présence à ses côtés.
Le premier souvenir que j'ai, c'est de... À l'époque, je n'étais pas vicaire général. C'est une réaction lors d'une réunion du conseil presbytéral. Et ce qui m'avait frappé ce jour-là, et presque un peu... plus que surpris, inquiété, c'est que... L'intervention qu'il a faite était manifestement pleine de bonne volonté, mais sur un ton dans lequel je ressentais, et je crois que je n'étais pas le seul, l'impression que il semblait s'adresser à des gens réticents, sinon hostiles. Ça m'avait beaucoup frappé. Mais
c'était ses prêtres.
Et oui, c'est, bien sûr, c'est le conseil presbytéral, c'était les prêtres. En fait, je crois qu'il débarquait, hein, et donc il se trouvait devant un peu l'inconnu. Par exemple, notamment sur la question de... On a évoqué un petit peu la question des mouvements. Pour lui, il y avait un mouvement, l'Action catholique. Alors, quand les prêtres entendaient ça, ils se demandaient de quoi on leur parlait, parce que pour eux, il n'y avait pas un mouvement d'Action catholique. Il y avait la JOC, la GAC, la GEC, etc., la CO, etc. Pour eux, l'Action catholique, c'était un univers varié, en fonction des situations. Bon, il a appris après, bien sûr. Il apprenait quand même rapidement. Mais il n'y avait pas que l'Action catholique. Il y a aujourd'hui encore, à l'époque c'était un petit peu moins, mais aujourd'hui encore, il y a 40 mouvements différents dans le diocèse. Hein, il y a toute la palette, hein, des mouvements sur les différents domaines, etc. Bon, donc ça, je pense que là, c'est effectivement qu'il était en train d'apprendre. Mais j'ai remarqué que lorsque il se trouvait en face de personnes ou d'un public par rapport auquel ils s'inquiétaient de savoir quelle était leur position, leur manière d'être par rapport à l'Église, par rapport à la foi, etc., ils devenaient à ce moment-là beaucoup plus pressants. Ils l'étaient moins quand ils s'adressaient paisiblement dans un échange sur des questions où voilà, la parole était sereine, tranquille, etc. Hein, chaque fois je crois qu'il était un grand inquiet de l'évolution du monde, inquiet des évolutions dans l'Église, et que c'était une façon pour lui de, comment dire, presque de s'armer, hein, face à ce qui lui apparaissait comme, non pas des égarements, mais en tout cas des difficultés. Voilà, c'est un peu ce que je pourrais dire sur ce sujet-là. Et par contre, je l'ai moins entendu, mais on voyait les effets, hein, par rapport aux personnes qu'il engageait sur tel projet. Pour lui, cette confiance était fondamentale. Et il en parlait peu. Mais quand j'avais eu l'occasion de rencontrer ces personnes, à ce moment-là, c'était visible, c'était sensible à quel point il était, non pas pressant, ça pouvait être par moments, mais stimulant, hein, toujours en proposant d'aller plus loin. Mais ce n'était pas moi je le lisais pas dans ses propos, j'ai pu le constater dans ce que les personnes en question disaient à son sujet. Ces personnes le disaient d'ailleurs, hein, en constatant que effectivement ça les mettait en route de façon vigoureuse. C'était pas pour s'en plaindre. Hein. Voilà.
Les gens savaient qu'ils leur faisaient confiance.
Oui, mais je crois qu'il ne s'épanchait pas là-dessus, mais il le montrait. Et il le montrait. Alors, c'est pareil, de façon tout à fait indirecte. Vous savez, dans la manière de parler des gens, hein, dans la manière qu'il avait de parler de telle et telle personne, on sentait bien qu'il y avait sa confiance. Hein. Mais quand il leur parlait en direct, il leur montrait toujours plus loin. Comme si, alors, comme si il pouvait un petit peu constater leurs limites. C'était pas du tout ça, c'était l'inverse.
Il avait... Pardon.
Moi, c'est dans un autre ordre d'idée. Je trouve qu'il était infatigable dans les débats. C'est-à-dire que quand il y avait des problématiques, il avait l'art quand même, grâce à sa culture historique et théologique, de prendre les personnes là où elles étaient. Et pédagogiquement, il était très doué au moyen de la philosophie, de ses connaissances, pour les faire monter graduellement. Et la loi de gradualité était... Et ça, c'est tout un art, parce que moi, j'étais déjà fatiguée à l'avance devant certaines objections, lui, pas du tout. Et du coup, ça portait quand même beaucoup de fruits au niveau des personnes ou des groupes qu'il évangélisait. Il lâchait pas le morceau. Vous voyez, quand on lui confiait des obstacles ou que des jeunes lui disaient qu'ils n'avaient pas la foi pour telle ou telle raison, on recommençait du pied de la montagne et on montait. Alors, ça prenait du temps, mais voyez, il arrivait bien là où il voulait mener son troupeau. Et en respectant la conscience des personnes. Et ça, c'était beau aussi. Il savait écouter toutes les objections. Il les notait avec ses papiers. Là, il notait. Et puis après, il reprenait. Et stack, numéro 1, 2, 3, 4. Vous voyez ? Et tac, très, très, avec beaucoup de délicatesse et de finesse. Il abattait toutes ces cloisons, là, et on partait, là, vous voyez ? Et ça avait du résultat, moi, je trouve, au niveau de l'évangélisation. Il est passé du temps, mais c'était performant. Et du coup, des personnes qu'il a évangélisées, c'est comme une pierre qu'on lance dans l'eau. Je me disais, mais pourquoi il a pu passer tant de temps avec cette personne ? Mon Dieu, mais que c'est long. Mais c'est comme une personne, une pierre qu'on jette dans l'eau, ça a des conséquences. Vous voyez. Après, ça a évangélisé les enfants, le cousin, la tante. Vous voyez,
c'est les ondulations.
Oui, c'était par dilatation. Vous voyez, par dilatation, le milieu s'évangélisait.
Il avait un vrai intérêt pour comprendre aussi, en effet, la société, comment elle évoluait. Je pense qu'on a tous été marqués parfois par des repas avec Mgr Brincard, où il arrivait, puis d'un coup, il se taisait. Vous regardez au fond des yeux, vous avez souvent évoqué son regard, qui parfois pouvait un peu surprendre. Et je pense que vous avez beaucoup à l'avoir vécu. Il disait, posez-moi une question. À la première fois, quand vous vivez ça... Vous êtes un peu surpris, puis vous gentiment vous posez une question, c'est quoi la vie d'évêque, comment vous vivez ça, enfin, puis j'ai dit non, posez-moi une question. Ok, bon, qu'est-ce qu'il veut ? J'ai encore en souvenir ma femme pour la première rencontre, il disait bon, il est bien sympa ton évêque, mais c'est un peu compliqué quand même. Et en fait, il voulait savoir quelles étaient les préoccupations, je crois, profondément, des gens, qu'est-ce qui les interrogeait. Non pas, en effet, c'était pas une question pour lui qu'il voulait, c'était une question pour le monde et pour l'Église. Je pense que vous êtes beaucoup à avoir vécu ça. C'était quelqu'un qui était vraiment très intéressé, en effet, par les évolutions de la société. Il l'évoquait, vous l'avez dit, Père Jean-Claude Petiot. Est-ce que Sœur Marie-Pierre, il en parlait beaucoup ou pas, de ces questions d'évolution de société ?
Oui, il y était attentif. Et bon, et quand il n'était pas d'accord, même avec des hommes politiques ou des gens haut placés ou qui pensaient qu'ils pouvaient faire quelque chose, Il ne se gênait pas pour les, pour leur parler, pour les faire venir, les rappeler au devoir de la conscience personnelle de chacun. Enfin, il tenait le morceau. Hein. Ils avaient quelqu'un en face d'eux, vous voyez.
Moi, je me souviens même de politiques qui nous disaient « Tiens, je suis convoqué chez Monseigneur Brincard. Ah. » Je l'ai entendu. Des députés, des...
C'était particulièrement sensible dans ses discours du 15 août. Des discours beaucoup, longs sur la morale, sur l'éthique, sur la laïcité, etc. Je me souviens d'un discours sur la... Enfin, d'un discours. Confrontation sur la laïcité, juste après des élections municipales du Puy, où ça avait été un sujet de débat... sinon prioritaire, du moins qui avait tenu quelque importance. C'était le cardinal Toumi qui était invité. Et il avait eu à la mairie du Puy, dans la réception de la veille habituelle, il avait eu un exposé sur la laïcité française. Mais je pense qu'il avait été bien branché. Et quand ça a été la réponse, quand le cardinal a commencé à répondre, il dit « Ouh, la laïcité française, moi je la connais, hein, parce que c'est mon éducation. » Et puis, je vais vous dire, quand l'ambassadeur de France arrive chez nous, et avec quelques disponibilités de subsides pour telle ou telle chose, qui vient consulter ? Ben, l'évêque. Pour lui dire, vous pourriez, où est-ce que vous pourriez employer cet argent? Alors, je dois dire que le discours sur la laïcité, vu dans l'Hexagone, c'était un petit peu différent. Et donc, Mgr Brancard, dans son discours, là aussi, avait tenu un propos ferme, comme chaque fois, sur laïcité et laïcisme. Bon, c'était... ça tombait de rue. Ouais. Mais c'est pour ça, je crois, que quand il se trouvait dans des situations où il savait, où il présentait qu'il y avait des réticences, des résistances, etc., là, il sortait de l'artillerie lourde.
Il savait le faire, oui. Père.
En parlant du 15 août, il y avait un morceau d'anthologie, c'était les repas à l'évêché le 15 août. Et alors là, vous imaginez une table avec des convives très différents, où on parlait avec son voisin, sa voisine, et à un moment, stop, on allait enfin aborder des choses importantes. Et ça commençait par un tour de table, où nous ne posions pas de questions, mais c'était lui qui les posait. Et on avait l'avantage de pouvoir dire un peu notre expérience autour du 15 août, ce qu'on avait découvert. Et donc, un jour, le sort tomba sur moi. J'étais à sa droite ou à sa gauche, je ne me rappelle plus. Il dit « Commence ». Et je suggère qu'on commence dans l'autre sens. Il dit « Non, c'est… Ben » Il dit « Qu'as-tu découvert au puits pendant ces quelques jours ?» Ben, j'ai découvert qu'il y avait eu à l'évêché un labrador noir qui s'appelait Jéricho. C'est ça, hein, son magasin. Voilà. Et en bas des marches de la cathédrale, tout à l'heure ou hier, il y a une vieille dame qui m'a présenté son chat qui s'appelle Trompette. Et alors, je lui ai dit, tu vois, tout parle de la Bible autour de toi. Il m'a dit, bon, allez, on passe au suivant.
Juste peut-être avant de partager la parole avec tout le monde, Monseigneur Baumgarten, vous l'avez pas ou peu connu, hein, vous l'avez croisé je crois une fois en venant ici en pèlerinage avec des jeunes quand vous étiez curé de paroisse. Vous avez fait plus ample connaissance avec lui pendant ces trois jours. Qu'est-ce que vous retenez et en quoi peut-être la figure de Monseigneur Brincard inspire aussi d'une certaine manière votre épiscopat d'aujourd'hui et demain?
Ce, Ce colloque, en fin de compte, je l'ai un peu souhaité aussi pour justement mieux connaître Mgr Brincard, qu'effectivement, je n'ai pas connu. Je l'ai croisé, mais je ne l'ai pas connu vraiment. Et donc, c'est un petit peu égoïste aussi de ma part, c'est pour essayer de mieux le connaître. Alors, il faudra que les choses se décantent et descendent un petit peu avec le temps pour mieux découvrir tout cela. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé ici, évêque du Puy, ça fait moins de 3 ans, hein, je me suis posé la question, mais comment avaient fait mes prédécesseurs pour commencer ? Parce que je crois que les commencements sont toujours très importants dans une mission et dans un diocèse notamment. Alors comment est-ce qu'ils avaient fait pour commencer ? Et donc j'avais interrogé évidemment mon prédécesseur Luc Répy, qui avait bien voulu passer une journée avec moi pour me parler un petit peu de tout ça. Et puis je me suis interrogé aussi sur comment avait fait Mgr Brincard, parce que arrivé en 88, à une époque où ça devait pas être très très simple d'arriver, avec l'image qu'il avait, on en a parlé et tout ça, cette situation. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'il a pu faire pour entrer dans son diocèse et le façonner comme il l'a fait. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a cette question-là qui me taraude un petit peu, de savoir, et je vais essayer d'approfondir ce sujet-là. Et aussi tout spécialement parce que, oui, moi je suis d'une génération où j'ai le sentiment de pas avoir eu suffisamment de modèles. Vous voyez, dans l'homélie d'hier, j'ai parlé de dire il faut non pas chercher à imiter, mais à s'inspirer. On ne peut jamais imiter quelqu'un parce que les personnes sont différentes et quand on essaye d'imiter, on imite mal et donc ce n'est pas ça qu'il faut faire, mais il faut essayer de s'en inspirer. Et moi, j'ai été marqué par quelques écrits notamment et j'ai fréquenté l'abbaye de Céphon et j'y vais encore de temps en temps. Et là-bas, il y a une grande figure spirituelle qui est le Père Jérôme. Et dans ses écrits, le Père Jérôme, il parle du commencement de sa vie spirituelle. C'est un Suisse d'origine et il disait, il cherchait des maîtres. Il disait, donnez-nous des maîtres. Et j'ai le sentiment d'avoir manqué ça dans ma formation, parce que j'ai aussi une période, moi je suis entré au séminaire en 97, et je trouve qu'aujourd'hui, il manque dans les séminaires de grandes figures. Hein, quand le cardinal Barbarin parlait hier des personnes qu'il avait pu connaître, dont il avait pu recevoir l'enseignement, hein, Jean-Luc Marion, tout ça, des grandes figures, des grandes personnes comme ça qui marquent quand même fortement. Et donc voilà, donc je suis un petit peu à la recherche de cela, de cette dimension, mais quel pourrait être un maître pour moi ? Alors on peut jamais avoir un seul maître, mais d'avoir quand même ce pouvoir se positionner par rapport à quelqu'un qui peut être une référence, pas exclusive, pas pour tout, bien sûr. Mais voilà, donc c'est un petit peu dans ce regard-là que je porte sur Mgr Brincard en disant ben, comment à travers les âges, à travers aussi une forme d'absence, parce que comme je ne l'ai pas connu physiquement, je ne peux pas lui poser de questions, mais il y a quelque chose qui peut m'inspirer, je pense. Et c'est un petit peu dans cette optique-là que j'essaie de comprendre qui il a été et comment il a fait. À travers son épiscopat, pour avoir une figure comme ça qui peut m'aider. Hein, parce que, voilà, être évêque, tout à l'heure, le père Petiot disait que quand il était devenu vicaire général, il avait été un peu jeté dans le bain comme ça, sans beaucoup de préparation. Quand on est évêque, c'est un petit peu ça aussi. Hein, on arrive évêque et puis on découvre un petit peu le métier, entre guillemets, d'évêque, même si on a une connaissance, on a une expérience, quand on a déjà été vicaire général, ça aide quand même beaucoup pour pouvoir connaître le métier, mais c'est toujours très différent. On peut pas, quand on passe un petit peu de l'autre côté, j'allais dire, c'est toujours très très différent. Et donc, ben voilà, comment est-ce qu'on peut être évêque aujourd'hui ? Et voilà, alors, les temps ont changé, hein, évidemment, et on a parlé de l'évolution de l'Église, d'évolution du monde. L'évolution de l'Église va très vite, l'évolution du monde encore plus vite, et donc on ne peut pas tout comparer, bien sûr, mais voilà, cette recherche de la figure d'un maître qui peut nous aider, qui peut m'aider dans mon épiscopat, c'est un petit peu ce que je recherche. Et c'est pour ça que ces 3 jours, pour moi, sont très, très, très forts, très, très enrichissants dans cette connaissance intérieur, intime, j'allais dire, de la personne de Mgr Brincard. Et voilà, je vais relire tout ça, reprendre tout ça, et ça sera d'un grand fruit, j'en suis sûr.
C'est assez intéressant pour avoir croisé de très nombreux évêques depuis quelques années, pas tous ici, mais parfois les évêques n'aiment pas trop qu'on leur parle de leurs prédécesseurs. Vous, vous êtes assez attentif, vous aimez bien, notamment qu'on évoque ces souvenirs-là. Donc ça va dans le sens de ce que vous venez de nous dire. Je vais juste poser la question aux quatre conférenciers qui sont à côté de vous. Qu'est-ce que vous retenez de ce colloque sur Marie-Pia, alors évidemment, non pas de ce que vous avez dit, mais de ce que vous avez entendu des autres.
Alors, je retiens que c'est une grande action de grâce, je trouve. Pour nous, participants, l'occasion nous a été donnée grâce à vous, cher Monseigneur, de rendre grâce pour tout ce qu'on a vécu de beau, de grand, auprès de Monseigneur Brincard. Et en écoutant toutes les interventions, j'ai aussi pensé que c'était une grâce pour vous, parce que, comme vous l'avez dit, ça vous permet aussi de mieux palper, toucher des enjeux historiques, pastoraux, ecclésiaux, d'une réalité qui vous a précédé. Et que c'est toujours intéressant pour comprendre aujourd'hui de faire appel à ce qui s'est passé avant. Et c'est très, très intelligent de votre part de se pencher sur ces aspects qui aident toujours dans le présent à avancer. Et je trouve aussi que les prêtres qui étaient ici présents autour de vous, qui ont vécu ici avant vous, ça vous permet aussi de les voir, de les voir dans leur qualité, dans toute la richesse de ce diocèse du Puy, dans son presbytérium, qui est belle, et que ça vous permet aussi de mieux tâter la patte humaine, vous voyez, de cette terre mariale. Voilà.
J'ai l'impression que lui, il a mesuré l'écart incroyable qu'il y avait entre sa nouvelle mission et sa vie auparavant. Oui. Et plusieurs fois, j'en ai parlé, parce que celui qui devient évêque et qui a été un prêtre dans son diocèse et qui a été curé de paroisse et qui a été aumônier des jeunes ou qui a été responsable de tels et tels services, il connaît un peu la musique, si on peut dire. Et Henri, lui, quand il est arrivé là, il est arrivé d'un tout autre monde. Donc, qu'est-ce que c'était que la vie d'un prêtre dans sa paroisse? Et je dis, mais comment tu as fait, quoi? Et ben, il dit, tu sais, une seule solution, aller partout. Voilà. Aller partout et écouter tout le monde et rencontrer tout le monde et serrer la main de tout le monde, etc. Et c'est comme ça que petit à petit, on se donne à connaître. Et puis après, les liens se tissent de la sorte. Mais c'est vrai que ça a été, c'était pas une nomination habituelle, quoi, si on peut dire, la sienne ici.
Ouais, j'ai beaucoup entendu parler, mais c'est pas la première fois, la beauté du diocèse, etc., de tout ce qu'il peut porter. Je crois qu'effectivement, il y a beaucoup de vrai dans tout ça. Mais je crois que le sentiment dominant chez les prêtres à propos de la vie du diocèse et peut-être aussi dans la mentalité générale du pays, du territoire, comme on dit, il y avait beaucoup plus le sentiment de la fragilité. Ce sentiment de la fragilité, je dirais, dans la population générale de la Haute-Loire, c'est quelque chose qui est très, très présent, doublé d'un autre sentiment, d'une autre attitude plus exactement, qui est celle que, dans ce qu'on s'applique à faire, il faut pas trop se montrer. Il faut vivre dans la discrétion. Mais je crois que c'est un tempérament. C'est un héritage tout à fait presque génétique. Mais voilà. Et donc, je crois que dans le ministère de Mgr Brincard, il y a un tas d'aspects de ce qui a pu être exprimé ici qui ont complètement échappé à la conscience de, je crois, de, non seulement des diocésains, mais des prêtres notamment. Hein. Parce que appliqué sur le terrain où l'on bataille, ça prend l'esprit, hein, ça occupe beaucoup de l'espace de pensée. Alors, l'importance qu'il accordait à la réflexion théologique, à la réflexion spirituelle, à la discipline de l'Église, tout ça, c'était évident. Mais sur les choses, comment dire, qui ne concernaient pas directement le diocèse, Mgr Brincard était d'une discrétion extraordinaire. Il n'en faisait jamais état de toute l'action qu'il pouvait avoir par ailleurs. Je dois dire que, en entendant les propos, j'ai découvert beaucoup de choses. Bon, il est vrai que, pour ce qui me concernait, moi, j'étais aussi complètement polarisé. Hein, voilà. Peut-être avec quelques œillères, mais voilà. Hein, donc, dans la relation avec lui, c'était ça l'occupation principale. Qu'est-ce qu'il y a à faire, comment on peut faire, etc. Voilà. J'ajouterai encore une autre chose. C'est c'était rare, mais les questions qu'il posait en disant « qu'est-ce qu'on peut faire ?», c'était les moments où il se trouvait un petit peu embarrassé. Sorti de là, il n'avait pas besoin de demander à qui que ce soit ce qu'il avait à faire. Il le savait. Voilà. Et je voudrais dire, à ce sujet, les deux dernières années de sa vie, lorsque l'histoire des sœurs contemplatives de Saint Jean lui a été confiée, eh bien, je crois qu'il a vécu là une épreuve morale tout à fait extraordinaire. Et que, on pourrait dire presque la violence à laquelle il a été affronté, la violence verbale, bien sûr, hein, mais à laquelle il a été affronté, a été pour lui vraiment un chemin de croix. Mais il n'en a jamais fait état dans ce qui concernait la vie du diocèse. Il avait même, le jour où ça lui a été demandé, il avait même dit clairement, je m'appliquerai à ce que cela ne perturbe en rien mon action dans le diocèse. Je dois dire que cette fin de vie, jusqu'au bout, pour moi, ça a été le moment, j'allais dire, le plus éblouissant de son épiscopat.
Si je peux me permettre d'ajouter juste une chose, je ne sais pas si tout le monde est conscient du fait que globalement, Mgr Brincard, c'était le fils premier-né du père Marie-Dominique Philippe. C'est-à-dire qu'il avait été son élève en 70, là-bas à Fribourg, parce que ces périodes étaient très troublées dans nos séminaires français, dans nos lieux de formation. Il était allé là-bas. Il avait mangé, dévoré sa philosophie, appris, développé. Enfin, et il était regardé comme le fils premier. Et quand tout ça est tombé sur lui, pour lui, c'était complètement accablant, quoi. Et je l'ai vu arriver à Lyon dans ces moments-là. Et c'était... enfin voilà, maintenant de toute façon, ce que je dois faire, eh ben, c'est être l'évêque du Puy, point final, enfin, et faire mon travail et continuer. Moi, je suis très content qu'il n'ait pas connu tout ça, quoi, si vous voulez. Que quand tout ça est devenu public, il était ailleurs, il était parti, et tant mieux.
Père Bonin, qu'est-ce que vous retenez, vous, de ces trois jours ?
Je retiens aussi bien dans un temps des premières rencontres avec lui jusqu'à ce jour présent, c'est que dans les nombreux entretiens que j'ai pu avoir avec lui, on se sentait toujours meilleur quand on sortait. Il avait diffusé un peu de la sainteté intérieure qui l'habitait. Et c'était précieux parce que souvent notre regard changeait sur les situations, sur les personnes. Justement, on évoquait toutes ces questions des débats, il les prenait à leur bonne et juste mesure. Ces entretiens se déroulaient soit chez lui, dans son bureau, ou bien dans des longues marches. Je me souviens encore, il y a dans les environs du Puy un endroit, une promenade où il n'y a plus de voie ferrée et nous faisions des longues marches sur cet endroit-là. Il disait, on est bien là parce que tu vois, je ne suis pas connu. Et il y avait à l'horizon, quelquefois, un point, une personne qui se rapprochait. Et quand cette personne nous croisait, elle nous disait, ah, Monseigneur, bonjour. Donc, voilà. Et j'ajouterais, alors, par rapport à nos entretiens de ces jours, je me dis que soit l'entretien direct avec Mgr Brincard, soit le fait de l'évoquer et de parler de lui, je parle pour moi, mais pour moi, ça me rend meilleur.
Merci pour ce mot. Je propose qu'on partage peut-être un peu une dernière fois. Là, on a quoi, un petit peu de temps. Si vous aussi, on le disait, comme c'est...
Allez-y. Juste une petite, parce que j'ai conscience de pas avoir tout à fait répondu à votre question. Mais il y a une question là-bas, mais juste pour signaler un point qui me paraît important, c'est ce qui m'a fait penser dans la citation que Sœur Marie-Pierre a donnée du cardinal Journet. Je ne connaissais pas cette citation, et quand c'était écrit, je crois, qu'il faut déchirer son cœur pour mieux comprendre... Cette idée d'associer à la fois la compréhension intellectuelle et ouvrir son cœur, déchirer son cœur, c'est-à-dire se risquer, se donner, quoi, enfin pour comprendre, quoi. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est ressorti assez souvent, j'ai l'impression, de différents échanges, cette association de l'intelligence et du cœur, et comment ça peut s'articuler. Et ça, c'est quelque chose que je retiendrai aussi.
Oui, comment on fait pour rester évêque 26 ans au même endroit?
On va vous répondre dans quelques années.
Ça, c'est un vrai défi, ça, parce que... Alors, ça dépend un peu des époques. Il y a des époques où on changeait peut-être moins souvent les évêques que maintenant, où il y a un turnover un peu des évêques... Après cela, je crois que c'est aussi un dialogue à avoir avec les autorités supérieures pour s'entendre sur ce que l'on... Là où on est le mieux à même pour déployer son épiscopat. Donc je ne sais pas très bien comment ça s'est passé entre Mgr Brincard, évidemment, et d'autres sollicitations qui ont peut-être été faites, je ne sais pas. Maintenant, un évêque... il est évêque titulaire d'un diocèse jusqu'à ses 75 ans. Après, voilà, il peut y avoir des sollicitations. Je n'ai pas encore cette expérience-là, donc je ne pourrais pas vous répondre sur le fond.
Ce qui m'a profondément marqué...
Quand j'entends cette question, moi je me dis, comment on fait pour rester 21 ans vicaire général?
Demandez-vous ça vous-même.
Ce qui m'a profondément marqué chez Monseigneur...
C'est important dans le ministère, dans l'Église, de dire que, au point de départ, et ça tient tout au long, on est appelé. Point. Après, on fait ce qu'on peut pour répondre. Mais l'appel, on n'en décide pas. On ne peut que le recevoir. Alors, il est ce qu'il est. Voilà. Mais, comprenez, je crois que... Enfin, c'est quelque chose qui m'avait frappé au niveau de la formation, au départ, et du choix du service dans le ministère. Normalement, n'importe qui... Avec la formation qu'il a pu recevoir, il décide qu'est-ce que je vais faire. Mais quand il s'agit du séminaire, la question n'est pas qu'est-ce que je vais faire, c'est à qui je vais servir et à quelle demande je vais répondre. Ben, la demande de l'Église à travers les évêques, les responsables. Je crois qu'une fois qu'on a posé la question comme ça, il n'y a plus trop de s'inquiétude à faire sur le parcours qui nous est proposé. On le reçoit.
Ce qui m'a profondément marqué chez Mgr de Brincard, c'est sa dévotion au cœur eucharistique de Jésus. Dans les années 77-78, je l'ai connu à l'abbaye de Champagne, et il me parlait toujours du cœur eucharistique. Et il me disait, Paris, est la ville par Montmartre, est la ville du cœur eucharistique. J'en étais resté là, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, le cœur eucharistique, mais bon. Et nous arrivons, donc, il nous appelle en 90 pour venir ici, habiter pendant 9 ans dans la maison de la Providence, diverses missions dans le diocèse. Et avec lui, nous avions fondé à un moment donné, quand nous habitions à la maison de retraite de Saint-Vosy, une arche sacerdotale. Et dans cette arche est arrivé un prêtre qui, à certains moments, me dit écoute, est-ce que tu veux pas qu'on aille célébrer la messe chez Denise ? Denise est une personne qui habitait dans le Haut-Doubs, donc c'est notre région, pourquoi pas. Donc on arrive chez Denise. Denise, je découvre une dame de 70 ans, en fauteuil roulant, toute sa vie en fauteuil roulant. Et tout simplement, nous célébrions la messe dans sa cuisine. Et après, nous avions la grâce de passer dans sa chambre. Et dans sa chambre, il y avait le Saint-Sacrement. L'évêque, bien sûr, Mgr Dalloz, à l'époque, l'avait autorisé le Saint-Sacrement. Et il y avait dans cette chambre une petite icône de soufanier qui suintait de l'huile, une huile qui sentait bon. Elle avait aussi une icône de Jésus miséricordieux dont les rayons étaient recouverts d'huile. Et donc nous sommes allés plusieurs fois avec Père Jean-Jacques et d'autres pères célébrer chez cette personne. Et un jour, elle me donne une photo. Elle me dit, ben voilà, elle me donne une photo d'une hostie, une grande hostie, avec à l'intérieur le cœur de Jésus. Et elle me dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire, cette hostie, dans le tabernacle de l'archevêché à Besançon, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que cette hostie soit vénérée, soit priée. Ben, pensez bien, moi, je me demandais bien, j'ai pas d'idée, bien sûr. Et 2 heures après, je me trouve à la chapelle de l'hôpital à Besançon, par hasard, où des gens priaient, et quelqu'un m'accoste et me dit, savez-vous que vous êtes au lieu de fondation de la dévotion au cœur eucharistique de Jésus, et il y a un lien avec Montmartre. Oh, alors là, je me dis, mais elle me donne des documents, je me dis, mais qu'est-ce que je fais de ça, qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Et aussitôt, on me vient Henri Brincard, puisque depuis le temps qu'il me parlait du cœur eucharistique, je lui amène ses documents. Ah, il me dit, écoute, Jésus veut quelque chose. Donc c'est vrai qu'on a créé une association, on a créé une fraternité à Besançon du cœur eucharistique de Jésus. Et puis, les années ont passé, et ce prêtre donc, est parti à Rome. Il a rencontré la maman de Carlo Acutis. Et puis, il lui parle des miracles. Et un jour, elle me téléphone, dit, écoutez, ce miracle, moi, je voudrais bien que tu sois mis sur le site à Carlo. Vous savez que Carlo répertoriait 136 miracles eucharistiques. J'ai dit, écoutez, c'est l'évêque qu'il a dans ce tabernacle, nous, on ne peut rien en faire. Mais elle me dit, écoutez, on va essayer de faire quelque chose. Et quand elle a fait sa tournée en France, elle est passée exprès par Besançon, et là, Monseigneur Bouilleret a bien voulu nous montrer l'hostie qui est intacte. Donc depuis 1998, cette hostie est toujours dans le tabernacle, et il y a toute une étude qui est en train de se faire et tout ça. Mais ce qui est surtout marquant, c'est l'apparition de Besançon, où Jésus dit « Je suis comme un pauvre qui demande du pain, je cherche des consolateurs et je n'en trouve pas ». Et c'est vraiment un cri qui m'a percuté, et j'ai réalisé à ce moment-là la solitude de Jésus dans le tabernacle. Et c'est un appel pour nous à aller vraiment passer du temps au tabernacle, et c'est le grand appel de Carlo, l'Eucharistie, mon autoroute pour le ciel. Donc je crois qu'Henri nous pousse, je pense que ce matin qu'il me pousse à vous partager ça, allons vraiment à l'Eucharistie, puiser toute la source, que tout est là.
Je voulais juste apporter un petit témoignage. J'ai 2 filles qui ont toujours grandi un petit peu dans, avec la présence de Mgr Brincard et qui ont eu la chance de vivre des temps très forts avec lui, notamment leur première communion, leur confirmation. Il a eu une présence quasiment déterminante dans la vie de mes filles que je mesure maintenant. J'en mesure les fruits. Et vous parliez, père, de... Il rendait meilleur et cette exigence recherchée à travers chaque être qu'il rencontrait a été déterminante, notamment chez l'une de mes filles, à qui il avait dit, Diane, qui est musicienne, à qui il a dit, Diane, tu as un don, et ce don, tu ne le gardes pas pour toi, il est pour les autres, il est pour Dieu. Et donc Diane a fait des études au conservatoire, et dernièrement, elle se présente à un concours de recrutement pour entrer à l'Orchestre national de Bordeaux. Et Diane, à l'issue de ce concours très difficile, est reçue. Et la première chose qu'elle me dit est au téléphone, « Maman, c'est une grâce du père Brincard. » Et là, j'ai dit « Merci, père. »
Oui, je voudrais juste témoigner d'une grâce posthume, on peut dire. Ma conversion a eu lieu le 13 novembre 2005 et je n'ai pas connu Mgr Brincard. J'avais juste croisé de loin deux fois. Et quelques années après, je me suis dit, je vais le rencontrer, il faut que je le rencontre pour lui proposer, puisque je suis sculpteur, céramiste, au cas où il ait besoin d'une statue, brûle-chapelle, etc. Donc j'appelle à l'évêché, et là on me dit, non, vous, c'est pas possible. Alors je dis, bah, j'ai le temps, je veux bien avoir rendez-vous dans 6 mois, dans 1 an. Et on me répond, non, vous n'aurez pas de rendez-vous, ni dans 6 mois, ni dans 1 an. Alors quand on est chrétien, qu'on raccroche comme ça, on bénit, bien sûr, j'ai béni mon évêque, mais ce n'était pas facile. Et puis le 14 novembre 2014, un ami me croise sur le trottoir et me dit « Notre évêque est mort ce matin et ce soir, puisque j'habite Monistrol-sur-Loire, notre curé, le père Trevet, organise une veillée d'adoration pour Mgr Brincard à 20h. Donc je décide d'y aller pour être bien en paix avec mon évêque que je n'avais jamais rencontré personnellement. Et quelques minutes avant que je parte à cette veillée d'adoration, le téléphone sonne et j'entends « Ici la paroisse de Mirecourt, la paroisse veut vous commander un chemin de croix. » Et donc je suis partie, donc c'était le curé de Mirecourt dans les Vosges qui me commandait un chemin de croix pour l'église et qui organisait une souscription, etc. Donc on a pris rendez-vous en décembre pour que j'aille visiter cette église. Le chemin de croix a été inauguré 2 ans plus tard. Mais vraiment, je suis partie à la veillée d'adoration. Vous imaginez, je baignais dans la joie. Mon évêque était en fait au rendez-vous. Voilà. Et je rends grâce.
Alors, je voudrais compléter un petit, pas compléter, mais donner un petit élément sur la piété mariale de Mgr Brincard qui a aidé un laïc, maître Fricoteau, qui était notaire en Seine-Saint-Denis et qui avait retrouvé ou trouvé la foi à Rome par l'intermédiaire de la Vierge Marie. Et ce notaire a décidé de faire connaître Marie. Et comme saint Jean a pris Marie chez lui après la mort de Jésus, donc maître Fricoteau s'est dit, il faut que de plus en plus de foyers prennent Marie chez eux. Et Marie les conduira à Jésus. Alors, il a décidé de faire une sorte de pendant à la piété du Sacré-Cœur à Paris, avec une belle statue de la Sainte Vierge dans la campagne parisienne. Et il a créé le site de Notre-Dame de France. Et il a eu l'idée, ça a été inauguré en 1988, il y avait eu quelques évêques là. Et après, il a décidé de faire pèleriner les vierges dont les statues, enfin les statues des vierges que l'on vénérait un peu dans toute la France, et de redonner un petit peu de vie à ce culte marial en faisant circuler ces statues dans toute la France, dans tous les diocèses. et il a organisé ce pèlerinage national de toutes ces statues vénérées. Et donc, c'est Monseigneur Brincard qui a accueilli ce mouvement du pèlerinage donc de toutes ces statues. Et il l'a fait au Puy en 1996. Il y avait plus de 100 charrettes avec les statues. On organisait donc toute une, avec l'accord de l'évêque et du prêtre, mais ce n'était pas toujours facile d'avoir l'accord. Dans mon diocèse, je sais que c'était très frileux. Mon curé savait que l'évêque n'était pas chaud, donc il m'a dit « Oh, je ne sais pas si on peut faire ça ». Et il a dit « Enfin, je veux bien, mais pas à l'église ». Donc, la statue, il se trouvait qu'elle était... personne n'en voulait, et on m'a téléphoné « Est-ce que tu veux accueillir Notre-Dame de Fatima chez toi ?» Alors, avec le vicaire de ma paroisse, nous avons organisé une veillée de prière, chapelet. Il a accepté de dire la messe et d'exposer le Saint-Sacrement une partie de la nuit. Ça a été une grâce extraordinaire pour la paroisse et il y a eu de très beaux fruits. Et il y a eu des signes très précis chez certaines personnes que Jésus s'est manifesté au cours de cette messe. Bon. Et après, alors, donc on a été très contents de participer à ce mouvement d'accueil de la Sainte Vierge chez soi, de retrouver un peu le goût du chapelet. Et Maître Fricoteau a eu l'aide après d'un jeune polytechnicien qui s'est dit « qu'est-ce que je vais faire en sortant de l'école ?» Et il s'est dit « je vais essayer de faire carrière pour la Sainte Vierge ». Et il a aidé Maître Fricoteau à fonder et vraiment construire le site de Marie de Nazareth à Nazareth. Et à partir de là...
Ah, il y a encore pas mal de monde qui aimerait juste...
À partir de là, il y a eu toute une évangélisation par Internet pour faire connaître les évangiles, etc.
Moi, je retiens que voilà, Monseigneur Brincard a accueilli le pèlerinage.
Voilà, c'est ça. Ici, mais ça a eu beaucoup de fruits.
Et on a monsieur, et après, on revient vers vous. Il y a juste monsieur qui... depuis un moment.
Oui, je voudrais apporter le témoignage d'un mouvement national que Mgr Brincard a présidé pendant une quinzaine d'années, qui est l'Alliance des directeurs et directrices de l'enseignement chrétien, qui est une structure de l'enseignement catholique qui aide les chefs d'établissement dans leur mission pastorale. Et dire combien il nous a apporté, moi j'ai été membre du conseil d'administration jusqu'à hier, combien il nous a apporté dans le sens que vous disiez, sœur Maria Pia, d'être exigeant pour Dieu et de nous amener, nous, comme membres du conseil d'administration, à être aussi exigeants dans ce que nous pouvions faire. Et puis, tout ce qu'il a apporté aussi aux chefs d'établissement de l'enseignement catholique dans des sessions annuelles que nous organisions et où ses interventions étaient toujours extrêmement appréciées.
Merci pour ce témoignage, monsieur. Puis le père Florent, après, je vous ai vu. Ah, il faut qu'on fasse assez court pour que tout le monde puisse...
Je serai très court.
Super.
Donc, je voudrais répondre à la question d'avant, si je puis me permettre d'apporter une petite goutte d'eau, sur la question des 25 ans au Puy-en-Velay comme évêque. Monseigneur Brincard, je l'ai côtoyé pendant tout son épiscopat régulièrement, et un jour... il m'avait proposé, avec la conférence des évêques, d'être venir comme médecin dans une commission sur les jeunes. Et alors, chaque fois, il arrivait, nous retrouvions donc à la conférence, nous étions dans la même commission, et chaque fois, ses confrères le voyaient arriver avec un petit sourire, parce qu'il avait toujours un livre qu'il sortait. Il disait, il faut lire cela à ses confrères évêques. Déjà, au départ, il élevait un peu les débats. Et certains confrères le taquinaient à chaque fois sur un point précis. Il disait, Henri, tu es toujours là-bas, au fait, comment ça s'appelle? Ah oui, le puits. Et l'autre confrère disait, mais Henri, c'est un trou. Et alors, Monseigneur Brincard répondait, ah non, c'est Notre-Dame du Puy. C'est un puits, et c'est un puits qui est très profond.
Merci. Père Florent.
Donc, Père Florent de Rugy. Donc, moi, je suis arrivé en Haute-Loire en 1993, au moment d'entrer au séminaire, accueilli dans un petit groupe qui était en lien avec Monseigneur Brincard et la communauté Saint-Jean. Et nous avions un pied-à-terre à la Chaise-Dieu. Voilà, donc mon arrivée à la Chaise-Dieu s'est bien passée. Alors on m'a gardé, on s'est dit, il est bon pour le service en Haute-Loire. Je caricature. Alors j'aurais tant et tant de choses, d'anecdotes à rapporter, de choses amusantes, parfois aussi peut-être un peu plus difficiles. Voilà, ça a été souligné à tel ou tel moment. Le père Ollier, qui est pas là, aurait pu le témoigner aussi, que dans le travail avec lui, il y a des moments, c'était pas facile. Moi, je l'ai fait en direct à la suite du père Emmanuel Gobillard à la cathédrale pendant un an. Dans cette petite fraternité sacerdotale que nous avons commencé, et dans le colloque, c'est ce que j'ai entendu, ça m'a fait réfléchir. Alors, je suscite un peu des interrogations, j'ai des surprises ou des attentes qui continueront de nous faire progresser. Il a été beaucoup question de son lien avec l'abbaye de Champagne. Dans cette fraternité sacerdotale, moi, ce qui me surprend du coup, après coup, en y réfléchissant, c'est que finalement, lui nous a peu parlé de ça, alors que ça aurait pu être un mode de vie, quelque chose qui aurait pu correspondre à notre attente, quelque chose à approfondir. En revanche, il nous avait beaucoup parlé de l'oraison, et donc de l'oraison carmélitaine. Alors, ce qui m'a surpris dans son enseignement, c'est que je me souviens du doctorat de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et les premières fois où on en a parlé, j'ai pas senti chez lui un enthousiasme extraordinaire au fait que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, carmélite, soit docteur de l'Église. Voilà, donc ça me suscite une interrogation chez moi. Voilà. Et puis, donc je l'ai accompagné. Enfin, quand je le dis, moi aussi, j'ai fait un peu le chauffeur avec lui quand j'étais diacre ou à différents moments. Je l'accompagnais au JMJ à Rome. Et donc, il lisait beaucoup. Enfin, en tous les cas, il avait beaucoup de livres. Parce que je me souviens d'être allé à la librairie Ancora, l'encre. Et alors, on passait dans les rayons. Je portais les sacs. Et lui, prenait les livres dans les rayons. Ah, celui-là, il est hop et hop. Et donc, on est sorti avec deux gros sacs de livres. Père Florent, je vous retrouve à l'hôtel. Je vais voir un tel. Voilà. Donc, c'était assez souvent comme ça. Toujours sur cette question de la fraternité, finalement, il y avait le père Emmanuel Gobillard aussi qui était une de nos interrogations. C'est que finalement, ça n'a pas vraiment, enfin, pas abouti dans le diocèse, pas avec lui en tous les cas. Voilà, ça a été pour nous une interrogation de se dire, alors quand on écoute, on voit qu'il a fait tant et tant de choses sur ce point-là, qui pourtant, visiblement, était quelque chose auquel il était attentif. Voilà, ça n'a pas abouti. Ce que je noterais du coup aussi, et ça c'est mon interrogation, je me dis, alors qu'on voit dans sa jeunesse, Éminence, vous avez parlé de ce que vous avez vécu avec lui à Vincennes, dans le diocèse, finalement, quand il part, j'allais dire, la source des vocations, c'est tari, quoi. C'est un peu radical de dire ça, c'est pas complètement tari, il faudrait regarder de près. Mais finalement, dans notre diocèse, on n'a pas peut-être, enfin, je me dis au fond, et nous, on n'a pas profité du fruit de ce que lui a vécu ailleurs. Voilà, quelle en est la raison? C'est une autre question. J'apporte déjà un élément. Ouais. Moi, je pense qu'il y a un problème sur, enfin, une question à approfondir sur la doctrine des états de vie. Voilà. Et pour revenir à la doctrine des états de vie. Et ensuite, pour souligner l'importance de l'évêque dans le diocèse, j'ai été aumônier militaire, aumônier des gendarmes. Et donc, c'était après son décès, mais c'était l'héritage de Monseigneur Brincard. Je me souviens du colonel du groupement de gendarmerie qui expliquait, qui disait « Quand je suis arrivé au puits, j'ai vite compris deux choses. Qu'il y a deux hommes importants au puits, l'évêque et Laurent Wauquiez.
» Merci, Arnaud. Ma sœur, et puis on terminera.
Pardon, je vais être très brève, mais je ne peux pas Merci. M'empêcher d'abord de remercier Sœur Marie-Pia, parce que vraiment, ce que tu nous as dit nous a découvert quelque chose de la continuité de la croissance de l'âme de Monseigneur. Enfin, voilà. Et je voulais aussi parler de quand on a beaucoup parlé du fait qu'il attirait des personnes, il invitait des personnes à venir donner leur talent aux amis qu'il attirait au puits. Et puis qu'il savait aussi quand il avait un dialogue personnel, soit avec une personne, soit avec une communauté, parce que c'est en ce nom-là que je parle, la grâce d'essayer de nous faire sortir ce qu'on avait de meilleur. Et je me souviens très bien quand il venait nous voir au puits, puisque Sœur Marie-Pierre était sa secrétaire, et que c'est lui qui nous a fait venir et qui nous a conseillé sur ce qu'on devait faire. D'ailleurs, je peux le dire, ça, quand on est arrivé au puits, et on ne savait pas ce qu'on allait faire, hein, à part accompagner Sœur Marie-Pia, qui était sa secrétaire. Et il nous a dit, la première chose à faire, allez rencontrer toutes les religieuses du puits qui vous ont précédées. Et pour nous, c'était un déclencheur extraordinaire. Et bon, ce que je voulais essentiellement dire, c'est que quand il venait nous voir, par exemple avant le jubilé, et il avait des homélies, des discours à faire, etc. Il ne nous disait pas, dites-moi ce que vous allez dire. Mais il dit, mais qu'est-ce que vous diriez? Et alors, il nous forçait. Et on était quand même un peu gênés, mais bon. Et puis surtout, on n'avait pas tellement l'habitude de réfléchir comme ça, quoi. Donc, et il nous invitait, il nous disait, bon voilà, il venait presque exprès pour ça. Dire, ben, je vais faire un tour là, de toute la communauté pendant la récréation. Et il disait, qu'est-ce que vous diriez sur le sujet ?
Voilà, merci, Père Roland, là-bas. Et on terminera avec vous. Vous avez entendu, il y a 3 minutes, Saint-Laurent sonner. Ah, je vous rassure, là, 3 minutes d'avance. Quand vous l'entendez, c'est qu'il est -3. Donc on arrive à midi.
Oui. C'est simplement pour... en 27 ans, il y en a eu des temps forts. Beaucoup. Mais est-ce que vous vous rappelez ce qu'un certain nombre parmi vous était en train de faire il y a 30 ans ? On allait partir avec Monseigneur Brincard, qui était à la tête d'un pèlerinage de près de 800 diocésains. Et on partait à Rome, un voyage homérique en train. Et on allait à la béatification de Mère Agnès de Jésus et d'Eugénie Joubert. Et ça, ça a été vraiment un temps fort. On emmenait avec nous Monseigneur Cornet, qui avait lancé la dernière phase de ces procès de béatification. Et il y avait une complicité d'ailleurs entre les deux qui était formidable. Et dans le train, ça n'était que prière, rencontre, rire, joie. Et ce pèlerinage a été quelque chose de triomphant, triomphal. Et Monseigneur, on partait avec la famille Joumard, dont un des membres avait été miraculé et qui était la cause de la béatification de Mère Agnès de Jésus. Et je voulais simplement rappeler cet événement. Il y a eu beaucoup de temps forts et il y a eu celui-là. Et puis, bien des années après, en 2014, la dernière fois, il me semble, je suis à peu près certain, qu'on a vu Monseigneur Brincard dans la cathédrale, c'était le 19 octobre, le jour où revenait au puits, pour la première fois depuis près de 400 ans, Agnès de Jésus. Ses reliques, sa châsse, avaient été prêtées par les sœurs. Et là, Monseigneur Brincard, qui devait juste dire un petit mot, plus court que le mien d'ailleurs, ce qui était prévu, il est parti, alors, on était le 19 octobre, il est mort le 14 novembre. Et il nous a fait un enseignement sur la vie religieuse. Et je trouve que la boucle se fait avec son choix d'entrer à Champagne. Et là, il nous a parlé de l'importance de la vie religieuse telle que pouvait l'avoir vécue Agnès de Langeac, dont les reliques, elle était là, tout près de lui. Et avant de partir, on n'osait pas se regarder parce que c'était tellement fort et déchirant. Mais il touchait la châsse et il est parti sur ce discours sur la vie religieuse qui, à mon avis, exprimait ce qu'il avait essayé de faire.
Merci, Père, pour ce témoignage. Monseigneur Baumgarten, je vous invite à clôturer, enfin pas totalement, parce que je crois qu'il y a encore un temps de convivialité qui est proposé pour continuer. Ouais.
Merci Stéphane, merci à vous pour cette table ronde. Oui, il y aura un petit temps de convivialité autour d'un dernier verre tout à l'heure. Un grand merci à nos conférenciers, à nos intervenants, ceux qui sont présents. On peut les applaudir encore. Merci à vous. Et puis merci à toute notre assemblée, à tous ceux qui ont participé à ce colloque. Merci de votre fidélité, de votre présence. Ceux qui sont ici, ceux qui sont passés, qui sont déjà repartis, puisque certains sont déjà repartis. Un grand merci à tous les membres de la famille de Monseigneur Brincard qui ont été présents. Et je les remercie vivement de continuer à venir au puits. Voilà, c'est une bonne chose aussi pour perpétuer cette mémoire et rendre vivante cette présence de Monseigneur Brincard ici. Voilà, un grand merci à chacun. Alors, pour conclure, je crois que le mieux, c'est de chanter un Salve Regina tous ensemble. On va se mettre debout. Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Amen.
Merci à vous. Et puis un dernier mot que j'ai oublié, c'est on va publier les actes de ce colloque et vous pourrez bien sûr les recevoir et les relire.